lire quelques versets dans le livre des Proverbes. Livre des Proverbes, chapitre 9. Les 6 premiers versets. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a tué ses bêtes. Elle a mixionné son vin. Elle a aussi dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur les sommets des hauteurs de la ville. Qui est simple qu'il se retire ici? À celui qui est dépourvu de sens, elle dit « Venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mixionné. Laissez la sottise et vivez et marchez dans la voie de l'intelligence. » Un autre verset dans l'évangile de Matthieu. Chapitre 16. Au milieu du verset 18. Et sur ce roc, je bâtirai mon assemblée. Et les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elle. Si nous comparons les deux versets, le premier verset du chapitre 9 des Proverbes avec ce verset 18 de l'évangile de Matthieu au chapitre 16, nous y voyons une concordance évidente. Dans le livre des Proverbes, nous voyons que la sagesse a bâti sa maison et elle a taillé ses 7 colonnes. Et dans l'évangile de Matthieu, sur ce roc, c'est Christ qui parle, « Je bâtirai mon assemblée ». Dans le livre des Proverbes, la sagesse a plusieurs aspects. Et nous savons que Dieu nous communique sa sagesse par sa parole. Et nous sommes exhortés à acquérir de la sagesse. Pour marcher dans ce monde, nous avons besoin de cette sagesse qui vient d'en haut. Et dans le livre des Proverbes, la sagesse aussi est personnifiée. À partir du verset 12 du chapitre 8, nous voyons que la sagesse est une personne qui parle, une personne qui appelle, une personne qui crie, une personne qui avertit. Et dans le Nouveau Testament, si nous lisons dans la première épître aux Corinthiens, nous comprenons quelle est cette sagesse qui nous parle, cette sagesse personnifiée. Première épître aux Corinthiens, premier chapitre, verset 24, verset 23, nous prêchons Christ, verset 24, Christ, la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Donc dans le livre des Proverbes, nous avons cette sagesse qui est personnifiée et le Nouveau Testament nous indique que c'est Christ, la sagesse de Dieu. Et dans ce chapitre 9, au premier verset, nous voyons que la sagesse, elle bâtit une maison. Elle bâtit sa maison. Et dans cette maison, elle a taillé 7 colonnes, 7 piliers. Et cette maison, donc ces piliers soutiennent cette demeure, cette maison. Et c'est la maison de la sagesse, c'est sa maison, il nous est dit. Ce n'est pas une maison, mais c'est sa maison. Dans l'évangile de Matthieu, si nous relisons ce verset dans ce chapitre 16 de Matthieu, il nous est dit que sur ce roc, donc Christ lui-même, eh bien, Christ bâtira son assemblée, sa maison. Je bâtirai mon assemblée. Et nous savons que cette maison est formée par des pierres vivantes depuis la descente du Saint-Esprit sur la terre et que cette maison se constitue pendant cette période de la grâce, jusqu'à ce que la dernière pierre soit ajoutée à cette maison, et jusqu'au moment où Christ va venir chercher les siens et les amener dans le ciel, dans la maison du Père. Et pendant tout ce temps de la grâce, nous voyons que Christ bâtit son assemblée. C'est mon assemblée, c'est ma maison. Et dans les premiers versets du chapitre 9 des Proverbes, nous voyons donc la sagesse personnifiée qui a tué des bêtes, qui a préparé du vin, et qui a dressé une table, et elle envoie ses servantes, et elle crie sur les sommets des hauteurs de la ville. La sagesse envoie des servantes, envoie des personnes, des croyants, pour que cette maison soit remplie. Et elle s'adresse à ceux qui sont simples et à ceux qui sont dépourvus de sens. Et tels nous étions, quand nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés, nous étions ces simples et ces personnes dépourvues de sens. Et elle dit à ces personnes, « Venez manger ». J'ai préparé tout ce qu'il faut dans cette maison. Le vin mixionné nous parle de la joie du salut. Mais nous voyons que la sagesse a préparé tout ce qu'il faut dans sa maison pour nourrir ceux qui y entrent. Venez, mangez mon pain et buvez du vin que j'ai mixionné. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est que nous voyons que cette sagesse est active, elle bâtit sa maison, elle invite à toutes ces personnes d'entrer dans sa maison Elle offre un refuge. Elle offre à ces personnes qui ne seront plus dépourvues de sens à s'asseoir et à manger à sa table, car la sagesse a déjà préparé la nourriture qui convient. Nous voyons la grâce de Dieu qui se manifeste à travers cette sagesse qui crie et qui exhorte donc les hommes et les femmes à être sauvés et à entrer dans sa maison. Si cette maison est un refuge, si cette maison offre toute la nourriture dont nous avons besoin, il ne faut surtout pas oublier que c'est sa maison, c'est la maison de la sagesse. Ce n'est pas notre maison. Et nous voyons que si cette maison a été bâtie et se bâtit encore, elle a taillé ses 7 colonnes. Le chiffre 7 nous parle de perfection. Et quand Christ bâtit sa maison, c'est le côté de Dieu, cette maison est parfaite. Et rien ne peut ébranler cette maison. Et si nous relisons encore dans Matthieu au chapitre 16, il nous est dit que les portes du Hadès ne prévaudront pas contre elles. Quand Dieu bâtit, eh bien c'est quelque chose d'une solidité à toute épreuve. Et nous voyons donc que cette maison que Christ bâtit, il y a 7 colonnes. C'est-à-dire, elle est soutenue, ce sont des piliers qui soutiennent sa maison. Et nous pouvons nous interroger quels sont ces piliers, quelles sont ces colonnes qui soutiennent la maison de Dieu. Une maison qui ne peut pas être ébranlée, parce que une colonne parle de puissance, parle de force. Et cette maison, il y a 7 colonnes et rien ne peut la détruire. C'est le côté de Dieu. Si nous pensons au temple qu'a bâti Salomon, il y avait en particulier 2 colonnes. Et on peut lire peut-être juste, c'est dans le deuxième livre des Chroniques, au début, chapitre 3, de Chroniques 3, il nous est dit « Et Salomon commença de bâtir la maison de l'Éternel. » Et à la fin, au verset 15 de ce chapitre 3, il nous est dit « Et devant la maison, il fit 2 colonnes. » Et sur ces 2 colonnes, il y en avait une qui s'appelait Jacquin et l'autre Boaz. Et nous pouvons lire la signification. « Il établira, affermira, et en lui est la force. » Mais dans le temple de Salomon, les 2 colonnes, qui étaient plutôt des colonnes décoratives, étaient à l'extérieur, étaient devant le temple de Salomon, étaient devant la maison de l'Éternel. Dans les Proverbes, dans ce chapitre 9, nous voyons que la sagesse donc a taillé ces 7 colonnes. Et ces 7 colonnes, signes de force et de puissance, eh bien, soutiennent la maison. Alors, pouvons-nous nous interroger quelles sont ces colonnes, quels sont ces piliers qui soutiennent la maison de Dieu, quelles sont ces colonnes qui portent cette maison et qui la rendent indestructible. Alors, nous pourrions lire dans un premier temps un autre pour essayer d'expliquer quelles sont ces sept colonnes. Pourrions lire dans le livre du prophète Agée. Page 648, livre du prophète Agée, chapitre 2, à la fin du verset 4, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées, la parole selon laquelle j'ai fait alliance avec vous lorsque vous sortîmes d'Égypte. Et mon esprit demeure au milieu de vous. Ne craignez pas. Voilà les trois premières colonnes. Je suis avec vous. Le Seigneur lui-même, le seul fondement, le roc sur lequel l'assemblée est bâtie. Le deuxième point, c'est la deuxième colonne, c'est la parole de Dieu. Et le troisième point, la troisième colonne, c'est le Saint-Esprit. La première colonne qui soutient l'Assemblée. L'Assemblée est un lieu où il demeure, où il est présent, où nous pouvons le rencontrer et où il peut nous donner tout ce que nous avons besoin. Vont nous rappeler cette parole du Seigneur. Avez-vous manqué de quelque chose? Luc, Évangile de Luc, je crois, chapitre 24. Depuis que nous sommes dans la maison de Dieu, avons-nous manqué de quelque chose? Est-ce que le Seigneur n'a-t-il pas été suffisant pour nous? Pour nos cœurs. Avons-nous eu besoin d'autre chose? C'est le premier point. Le deuxième point à ne pas oublier, c'est que la maison de Dieu, c'est sa demeure, et si nous y sommes, c'est que nous y avons été invités. Nous sommes ces hôtes. Et dans la mesure où nous comprenons que la maison de Dieu, c'est sa maison, c'est la maison où le Seigneur est présent, nous comprenons que nous ne pouvons pas y faire ce que nous voulons. Nous ne pouvons rien organiser à notre façon. Rien ne peut se décider en dehors de lui. Nous ne sommes pas nos propres chefs. C'est sa maison, c'est sa demeure. Et le troisième point, c'est un lieu où devons nous y comporter d'une manière digne de sa présence. C'est sa maison, nous sommes chez lui. Nous ne sommes pas chez nous. Donc la première colonne qui soutient cette maison, c'est Christ lui-même. Et dans cette maison, il faut penser que c'est un édifice glorieux, parce que celui qui en est le centre, c'est Christ lui-même, c'est le Fils de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui est le centre dans la maison de Dieu. C'est Dieu lui-même qui en est le centre. C'est Christ lui-même. Et quand nous comprenons ce qu'est la maison de Dieu, ce qu'est l'assemblée de Dieu, nous comprenons tout de suite, très bien, que nous ne pouvons rien faire à notre guise. Nous ne pouvons rien faire de notre propre chef. Mais nous devons nous laisser conduire pour marcher d'une manière digne de lui, digne de celui qui est dans cette maison et celui qui en est le centre. La deuxième colonne qui soutient cette maison, c'est la parole de Dieu. Elle est la seule nourriture qui convient pour ceux qui habitent cette maison, pour ceux qui la constituent. Et nous savons que la parole de Dieu est un guide infaillible, digne de notre confiance, et un guide fidèle. Elle nous éclaire. Elle nous enseigne, elle nous avertit, elle nous corrige, elle nous encourage. Voilà la deuxième colonne de la maison de Dieu. La première, c'est le Seigneur lui-même. Je suis avec vous, Agé, chapitre 2. La deuxième colonne, c'est ma parole qui est avec vous, donc c'est la parole de Dieu qui doit nous guider, nous enseigner, nous éclairer. Et la troisième colonne, c'est le Saint-Esprit lui-même. Le Saint-Esprit qui est une personne divine. On peut faire un bref résumé. Mais sur la personne du Saint-Esprit, nous savons qu'il y a des livres qui ont été écrits. Ce que nous pouvons en dire maintenant, c'est que le Saint-Esprit habite le croyant et que notre corps est le temple du Saint-Esprit, qu'il habite dans le croyant éternellement. La deuxième chose, c'est que le Saint-Esprit est présent dans l'Église, est présent dans l'Assemblée, et nous devons nous laisser conduire d'une manière réelle et pratique par le Saint-Esprit. On a dit que ces trois colonnes formaient ce qu'on appelle la corde triple, ce socle indispensable dans la maison de Dieu pour être conduit et pour avoir une vie collective digne de Dieu et à la gloire de Dieu. La quatrième colonne, et on a souvent dit que la quatrième colonne, c'est celle du centre, du milieu. Trois colonnes d'abord, trois colonnes après, mais la colonne centrale, c'est la quatrième. Eh bien, on a dit que dans la maison de Dieu, c'est la célébration de la scène, la célébration de la mort du Seigneur, le mémorial de ses souffrances et de sa mort. Et cette proclamation de son œuvre et le rappel de ses souffrances est la colonne, mais une colonne de gloire centrale dans sa maison. Et le mémorial de ses souffrances dans la maison de Dieu est véritablement une colonne à la gloire de son nom, lui qui a aimé l'assemblée et qui s'est livré lui-même pour elle. La cinquième colonne, nous avons déjà, il y a plusieurs mois, abordé cette question, c'est que c'est la sainteté. La sainteté qui sied à sa maison. La sainteté sied à ta maison, ô Éternel. Nous connaissons tous le verset de ce psaume 93. Et il faut bien faire la différence entre ce qu'on appelle la sainteté de position. Quand nous sommes sauvés, quand nous avons foi en l'œuvre de Jésus-Christ, et quand nous recevons la vie, quand nous sommes sauvés, eh bien, nous sommes mis à part, nous sommes des saints, et c'est ce qu'on appelle cette sainteté de position. Mais il y a un autre côté dans la maison de Dieu, c'est notre sainteté pratique, c'est-à-dire que cette sainteté nécessite ou requiert un exercice continuel et permanent pour avoir une marche qui plaise à Dieu. La sixième colonne qui soutient la maison de Dieu, c'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Quand nous lisons le livre du prophète Ézéchiel, nous savons que cette gloire de l'Éternel a quitté progressivement cette maison de l'Éternel à cause de l'état du peuple d'Israël, progressivement. Et elle a quitté cette maison de Dieu comme à regret, progressivement. Et il faut que nous pensions que la gloire de Dieu est engagée dans sa maison. Et je crois que c'est dans le psaume 29, sauf erreur, psaume 29, je crois. Psaume 29, la deuxième partie du verset 9, il nous est dit « Et dans son temple, tout dit gloire. » Dans son temple, tout dit gloire. Dans sa maison, dans la maison de l'Éternel, ici, dans ce psaume, tout dit gloire. Voilà là. Une autre, la sixième colonne, la gloire de Dieu dans sa maison. Et posons-nous cette question, est-ce que dans la maison de Dieu, dans l'assemblée locale, est-ce que tout dit gloire? Est-ce que notre comportement dans l'Assemblée, est-ce que nous pouvons dire que tout dit gloire, que nous glorifions Dieu en vérité dans tout ce que nous faisons ensemble, unis ensemble, est-ce que dans l'Assemblée, tout dit gloire, Est-ce que nous glorifions Dieu? La septième et dernière colonne, on a dit que c'est la venue du Seigneur. C'est annoncé avec la célébration de la scène du Seigneur à la table du Seigneur, la proclamation de son œuvre, le rappel de ses souffrances, mais aussi en même temps, c'est la venue du Seigneur qui est annoncée, jusqu'à ce que je vienne. Et cette attente de l'Église, cette bienheureuse espérance, c'est cette septième colonne qui soutient l'Assemblée, et cette Assemblée qui attend au fond la venue du Seigneur pour être transportée dans le ciel. Cette maison sera transportée dans le ciel, puisqu'il nous est dit dans Apocalypse au chapitre 21, peut-être au verset 3, que l'habitation de Dieu sera avec les hommes. Donc, la colonne qui soutient cette maison, c'est véritablement cette espérance. Cette espérance du retour du Seigneur pour être transporté, pour que l'Église soit transportée et soit éternellement avec son Seigneur. Pour finir, la sagesse personnifiée qui bâtit sa maison. Elle a taillé ces sept colonnes pour que c'est le côté de Dieu, c'est le côté du Seigneur, c'est lui qui bâtit. Et nous savons que, comme nous l'avons dit tout à l'heure, que ce que fait le Seigneur quand il bâtit l'Assemblée, c'est parfait, c'est... Rien ne peut détruire ce que le Seigneur bâtit. Mais en même temps, nous savons qu'en particulier dans la première épître aux Corinthiens, il y a tout ce qui est laissé à notre responsabilité dans la construction de la maison. Et où en est-on de notre responsabilité ? Il y a beaucoup de matériaux peut-être que nous ajoutons dans la construction et qui seront brûlés un jour, car parfaitement inutiles, des matériaux qui viennent de l'homme, mais non pas des matériaux qui viennent de Dieu lui-même. Avec quoi nous bâtissons ce qui est laissé à notre responsabilité par le Seigneur ? Mais il y a quelque chose de magnifique quand nous comparons ce verset, le premier verset du chapitre 9 des Proverbes avec ce verset 18 de l'Évangile de Matthieu au chapitre 16. Nous voyons que Dieu avait préparé de toute éternité ces proverbes qui ont été écrits et l'Évangile de Matthieu qui ont été écrits combien d'années plus tard, on voit la parfaite unité de la parole de Dieu. Mais quelle consolation de savoir que quand Dieu bâtit sa maison, une maison, sa demeure parfaite, et quelle grâce d'en faire partie, d'être des pierres de sa maison qu'il a préparées et qu'il a ajoutées et qu'il continue à ajouter. Et pensons qu'un jour, cette maison sera transportée dans le ciel et Dieu habitera avec les hommes.
L'apôtre Paul écrit à Timothée, « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, colonne et soutien de la vérité. » On pourrait lire peut-être ce chapitre 3 de 1 Timothée.
Cette parole est certaine que si quelqu'un aspire à la surveillance et désire une œuvre bonne, il faut donc que le surveillant soit irrépréhensible, mari d'une seule femme, sobre, sage, honorable, hospitalier, propre à enseigner, non adonné au vin, non batteur, mais doux, non querelleur, n'aimant pas l'argent, conduisant bien sa propre maison, tenant ses enfants soumis en toute gravité. Mais si quelqu'un ne sait pas conduire sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Assemblée de Dieu ? Qu'il ne soit pas nouvellement converti, de peur qu'étant enflé d'orgueil, il ne tombe dans la faute du diable. Or, il faut aussi qu'il ait un bon témoignage de ceux de dehors, afin qu'il ne tombe pas dans l'opprobre et dans le piège du diable. De même, il faut que les serviteurs soient graves, non doubles en parole, non adonnés à beaucoup de vin, non avides d'un gain honteux, gardant le mystère de la foi dans une conscience pure, et que ceux-ci aussi soient premièrement mis à l'épreuve, ensuite qu'ils servent, étant trouvés irréprochables. De même que les femmes soient graves, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Que les serviteurs soient maris d'une seule femme, conduisant bien leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui ont bien servi acquièrent un bon degré pour eux, et une grande hardiesse dans la foi qui est dans le Christ Jésus. Je t'écris ces choses, espérant me rendre bientôt auprès de toi. Mais si je tarde, afin que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'assemblée du Dieu vivant, la colonne et le soutien de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire.
Pour venir déjà à l'Assemblée, il faut déjà que dans notre propre maison, qu'il y ait l'ordre, la discipline, et qu'il y ait la conscience que nous devons être purs et saints dans notre vie, dans notre marche, et ainsi, en venant à la réunion, à l'Assemblée, nous savons comment il nous faut nous conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Assemblée du Dieu vivant, colonne et soutien de la vérité. L'Assemblée n'est pas la vérité, elle est la colonne et le soutien de la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité, c'est l'Esprit de Dieu qui est la vérité, et c'est le Seigneur lui-même qui est la vérité. Et comment nous devons alors marcher ici-bas, dans notre propre maison? Et déjà, alors, si dans notre maison, il y a de l'ordre, de la discipline, de la sagesse, alors nous pouvons ainsi marcher au milieu de l'Assemblée, qui est donc la colonne et le soutien de la vérité.